Diffusé depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du samedi après-midi de la 188e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par un chœur combiné d'étudiants des instituts de religion de l'interrégion de Salt Lake City. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dallin Oaks, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi après-midi de la 188e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons toutes les personnes qui se trouvent dans cette assemblée ou qui suivent cette réunion par d'autres moyens. La musique de cette session est interprétée par un chœur combiné d'étudiants des instituts de religion de l'interrégion de Salt Lake City en Utah. Le chœur est placé sous la direction de Marshall McDonald et Richard Decker avec Bonnie Goodliff et Linda Margetts à l'orgue. Le chœur ouvrira cette session en chantant « Viens écouter la voix de Dieu » numéro 12 dans le recueil des cantiques. Mark Bragg, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture.
Thank you. Notre bon et cher Père Céleste, tandis que nous inclinons notre tête ce soir à cette conférence que nous avons l'occasion d'avoir pour renforcer notre foi, nous te remercions pour cette belle occasion. Nous sommes reconnaissants de pouvoir entendre la parole des prophètes, reconnaissants de présent pour président Nelson. Nous l'aimons et nous le soutenons. Et nous prions pour que tu puisses le bénir et veiller sur lui, le guider ainsi que ses conseillers et tes membres du Collège des Douze, tandis qu'il guide et dirige cette Église sous la direction de ton Fils. Nous sommes reconnaissants pour tous ceux qui se sont préparés pour participer à cette conférence et prions pour que leur message puisse être reçu et que nous puissions agir en fonction de leur message. Nous te remercions de bénir et te demandons de bénir tous les missionnaires de par le monde, qu'ils aient la charité, guide-les avec l'aide des mères, des membres pour qu'ils puissent trouver ceux qui recherchent l'Évangile. Nous sommes reconnaissants pour la jeunesse de ton Église. Nous sommes reconnaissants de leur exemple. Bénis-les. Et tandis qu'ils écoutent les messages de cette conférence, fait qu'ils puissent accroître leur foi et leur témoignage et avoir davantage de confiance pour partager le témoignage qu'ils ont de ton Évangile dans cette notre époque. Bénis aussi les veuves et les veufs et ceux qui sont seuls et ressentent la douleur, qu'ils puissent ressentir ton soutien et tes soins et que leurs familles et leurs amis puissent être attentifs à leurs besoins. Nous t'aimons et nous te remercions pour toute la gratitude. Nous devons toutes ces choses avec beaucoup d'humilité. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Nous savons que le rapport statistique qui est généralement présenté lors de cette session de la conférence générale d'avril sera maintenant disponible sur lds.org après cette session et sera aussi inclus désormais dans les numéros de la conférence des magazines de l'Église. Je vais maintenant présenter les autres affaires de l'Église à votre vote de soutien. Puis, frères, du fait de leur appel à servir comme membres du Collège des Douze, nous relevons maintenant Gerrit W. Gong et Ulysses Suarez comme membres de la présidence des 70. De plus, nous relevons Craig C. Christensen, Lynn G. Robbins et Juan E. Uceda de leur service de membres de la présidence des 70 à compter du 1er août 2018. Que tous ceux qui souhaitent remercier ces frères de leur service le manifestent. Il nous est proposé de relever les frères suivants de leur service de 70 d'interrégion: Stephen R. Bangeter, Matthew L. Carpenter, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, R. Scott Runia et Juan Pablo Villar. Que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour remercier ces frères de leur service dévoué le fassent en levant la main. Il nous est proposé de relever avec tous nos remerciements Sœur Bonnie L. Oscarson, Carole F. McConkie et Neil F. Marriott comme présidente générale des jeunes filles. Nous relevons également les membres du bureau général des jeunes filles qui ont si bien servi. Que tous ceux qui veulent se joindre à nous pour exprimer leurs remerciements à ces sœurs pour leur remarquable service et leur dévouement le fassent. Il nous est proposé de relever Sœur Bonnie Cardon de son appel de première conseillère dans la présidence générale de la primaire. Que ceux qui souhaitent exprimer leur reconnaissance le manifestent en levant la main. Il nous est proposé de soutenir les frères suivants comme membres de la présidence des 70 à compter d'aujourd'hui. Carl B. Cook et Robert C. Gay. Les frères suivants sont également appelés à servir comme membres de la présidence des 70, mais à compter du 1er août 2018. Terence M. Vinson, José A. Teixeira et Carlos A. Godoy. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a. Il nous est proposé de soutenir les frères suivants comme nouveaux 70 autorités générales. Stephen R. Bangeter, Matthew L. Carpenter, Jack N. Gerard, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, Juan Pablo Villar et Takashi Wada. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires par le même signe. Il nous est proposé de soutenir les frères suivants comme nouveaux 70 d'interrégion. Richard K. Ahaji, Alberto A. Alvarez, Dwayne D. Bell, Glenn Burgess, Victor R. Calderon,
Daniel Cordova, John N. Craig, Michael Cisla, William H. Davis, Richard J. DeVries, Kyler G. Dominguez, Sean Douglas, Michael A. Dunn, Kenneth J. Firmage, Edgar Flores, Salo G. Franco, Carlos A. Gennaro, Mark A. Gilmore, Sergio A. Gomez, Roberto Gonzalez, Vigilio Gonzalez, Spencer R. Griffin, Matthew S. Harding, David J. Harris, Kevin J. Hathaway, Richard Holzapfel, Eustache Ilunniga, Oke Shokok Ino, Peter M. Johnson, Michael D. Jones, Pungi Congolo, George Kenneth G. Lee, Artemio C. Maligona, Edgar A. Montilla, Lincoln P. Martins, Clement M. Matsuago Tata, Carl R. Maurer, Daniel S. Mayer II, Glenn D. Miller, Isaac K. Morrison, Yukata Nagatomo, Alastair B. Odgers, R. Jeffrey Park, Dennis E. Pineda, Enrique S. Simplicio, Jeffrey H. Singer, Michael L. Staley, Jarat Subiantara, Jeffrey K. Wetzel, Michael S. Wilstead, Helmut Vondra, and David L. Wright.
All in favor, que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a. Il nous est proposé de soutenir Bonnie H. Gordon comme présidente générale des jeunes filles, avec Michelle Lynn Craig comme première conseillère et Rebecca Lynn Craven comme deuxième conseillère. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir Lisa Renee Harkness comme première conseillère dans la présidence générale de la primaire. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. Les avis contraires, s'il y en a. Il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales, 70 d'interrégion et présidence générale d'auxiliaires actuelles. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a. Frère Nelson, le vote a été noté. Nous invitons les personnes qui ont exprimé des avis contraires à prendre contact avec leur président de pieu. Avec le soutien qui vient d'avoir lieu, nous avons maintenant 116 autorités générales. Près de 40% d'entre elles sont nées en dehors des États-Unis, en Allemagne, au Brésil, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en Écosse, au Canada, en Corée du Sud, au Guatemala, en Argentine, en Italie, au Zimbabwe, en Uruguay, au Pérou, en Afrique du Sud, aux Samoa américaines, en Angleterre, à Porto Rico, en Australie, au Venezuela, au Kenya, aux Philippines, au Portugal, à Fidji, en Chine, au Japon, au Chili, en Colombie et en France. Frères et sœurs, nous vous remercions de votre foi et de vos prières en faveur des dirigeants de l'Église. Nous invitons maintenant les nouveaux 70 autorités générales et la nouvelle présidence générale des jeunes filles et sœur Harkness de la présidence générale de la primaire à prendre place sur l'estrade. Comme annoncé, Kevin Jorgensen va maintenant lire le rapport d'appurement de l'Église pour l'année 2017.
À la première présidence de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, chers frères, comme le prescrit la révélation de la section 120 de Doctrine et Alliance, c'est le conseil d'affectation de la dîme, composé de la première présidence, du collège des deux apôtres et de l'épiscopat président, qui autorise les dépenses faites à partir des fonds de l'Église. Les départements de l'Église dépensent les fonds selon les budgets approuvés et conformément aux règles et modalités de l'Église. L'appurement de l'Église, qui est composé de professionnels certifiés et indépendant de tous les autres départements de l'Église, a la responsabilité de procéder à des appurements dans le but de fournir une assurance acceptable concernant les contributions reçues et les dépenses faites et de protéger les biens de l'Église. Suite à nos vérifications, l'appurement de l'Église estime que dans tous leurs aspects significatifs, les dons reçus, les dépenses faites et les ressources de l'Église au cours de l'exercice 2017 ont été enregistrées et administrées conformément aux pratiques comptables appropriées, au budget approuvé et aux règles et modalités de l'Église. L'Église applique les habitudes enseignées à ses membres de vivre dans les limites d'un budget, d'éviter les dettes et d'épargner pour des temps difficiles. Présenté respectueusement, Département d'appurement de l'Église, Kevin R. Jackson, directeur général.
Merci. Le chœur va maintenant nous interpréter « Où pourrais-je chercher ?» Après le chant, nous aurons le plaisir d'entendre David Bednar du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de Taylor Godoy des 70.
Je me réjouis dans l'opportunité de soutenir les dirigeants de l'Église. Et je souhaite la bienvenue à Frère Gong et Frère Suarez dans le Collège des 12 apôtres. Et je me réjouis de l'occasion d'apprendre et de servir avec eux. Je prie pour que le Saint-Esprit nous éclaire et nous enseigne sur la nature de la douceur de notre Sauveur. La douceur est une vertu essentielle du Rédempteur qui se caractérise par une réactivité juste et une soumission volontaire et une excellente maîtrise de soi. Dans le Nouveau Testament, nous découvrons l'histoire d'un jeune homme riche qui demanda à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Tout d'abord, le Sauveur l'exhorta à respecter les commandements. Ensuite, il lui donna une condition supplémentaire adaptée à ses besoins et à sa situation personnelle. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Comparez la réaction du jeune homme riche avec l'expérience d'Amulek, rapportée dans le livre de Mormon. Amulek était un homme industrieux et prospère, qui avait beaucoup de parents et d'amis. Il se décrit comme un homme qui avait été appelé de nombreuses fois, mais qui ne voulait pas entendre. Un homme qui connaissait les choses de Dieu, mais qui ne voulait pas savoir. Amulek, homme foncièrement bon, était préoccupé par les choses du monde, tout comme le jeune homme riche décrit dans le Nouveau Testament. Bien qu'il ait auparavant endurci son cœur, Amulek a écouté la voix de l'ange. Il a reçu le prophète Alma chez lui et l'a nourri. Il a connu un réveil spirituel au cours du séjour d'Alma et a été appelé à prêcher l'Évangile. Il a alors abandonné tout son or, son argent et ses choses précieuses pour la parole de Dieu. Et il a été rejeté par ceux qui étaient jadis ses amis et aussi par son père et par sa famille. À votre avis, qu'est-ce qui explique la différence entre la réaction du jeune homme riche et celle d'Amulek? Exemple numéro 2. Pendant une période dangereuse de guerre décrite dans le livre de Mormon, Moroni, commandant en chef de l'armée néphite et Pahoran, grand juge et gouverneur du pays, ont échangé des épîtres. Moroni, dont l'armée souffrait du mauvais soutien du gouvernement, a écrit à Pahoran sous forme de condamnation et l'a accusé, lui et les autres dirigeants, de manque d'égard, de paresse, de négligence et même de trahison. Pahoran aurait facilement pu en vouloir à Moroni pour ses accusations erronées, mais il ne l'a pas fait. Il a réagi avec compassion. Il a décrit une révolte contre le gouvernement dont Moroni n'avait pas connaissance. Il a ensuite déclaré, « Voici, je te dis, Moroni, que je ne me réjouis pas de tes grandes afflictions. Oui, cela me peine l'âme. Dans ton épître, tu m'as censuré, mais cela n'a pas d'importance. Je ne suis pas fâché, mais me réjouis de la grandeur de ton cœur. » À votre avis, qu'est-ce qui explique la réponse tempérée de Pahoran aux accusations de Moroni? Exemple numéro 3. Il y a 6 mois, lors de la conférence générale, Russell M. Nelson a décrit sa réaction à l'invitation du président Monson d'étudier, de méditer et d'appliquer les vérités contenues dans le livre de Mormon. Il a dit, « J'ai essayé de suivre sa recommandation. Entre autres choses, j'ai fait des listes de ce que le livre de Mormon est, de ce qu'il affirme, de ce qu'il réfute, de ce qu'il accomplit, de ce qu'il clarifie et de ce qu'il révèle. Regardez le livre de Mormon, à travers ses prismes, a été un exercice révélateur et inspirant. Je le recommande à chacun de vous. Henry B. Eyring a également souligné l'importance de la demande du président Monson dans sa vie. Il a noté « Je lis le livre de Mormon tous les jours depuis plus de 50 ans. J'aurais donc pu raisonnablement penser que les paroles du président Monson s'adressaient à quelqu'un d'autre. Pourtant, comme bon nombre d'entre vous, j'ai senti l'encouragement et la promesse du prophète m'inviter à faire un effort supplémentaire. L'heureux résultat pour moi et pour bon nombre d'entre vous a été ce que le prophète avait promis. À votre avis, qu'est-ce qui explique la réaction immédiate et sincère de ces deux dirigeants de l'Église du Seigneur à l'invitation du président Monson? Je ne sous-entends pas que l'on peut expliquer les fortes réactions spirituelles d'Amulek, de Pahoran, du président Nelson et du président Eyring à l'aide d'une seule vertu chrétienne. Il est certain que la maturité spirituelle manifestée de ces quatre nobles serviteurs est le résultat de plusieurs vertus et expériences liées. Mais le Sauveur et ses prophètes ont souligné une qualité indispensable que chacun de nous doit mieux comprendre et s'efforcer de cultiver. Notez bien la caractéristique que le Seigneur utilise pour se décrire dans le verset d'Écriture suivant. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il est instructif de voir que de toutes les vertus qu'il aurait pu sélectionner, le Seigneur a choisi de mettre l'accent sur la douceur. On voit un modèle semblable dans une révélation donnée à Joseph Smith le prophète en 1829. Le Seigneur déclare « Apprends de moi » et écoute mes paroles. Marche dans l'humilité de mon esprit et tu auras la paix en moi. La douceur est une vertu essentielle du Rédempteur qui se caractérise par une réactivité juste, une soumission volontaire et une excellente maîtrise de soi. Cette qualité nous aide à comprendre plus pleinement les réactions d'Amulek, de Pahoran, du président Nelson et du président Eyring. Par exemple, le président Nelson et le président Eyring ont réagi rapidement et de manière juste à l'encouragement du président Monson de lire et d'étudier le livre de Mormon. Bien que ces deux hommes occupent des postes importants dans l'Église et qu'ils aient étudié les Écritures en profondeur depuis des dizaines d'années, ils n'ont fait preuve d'aucune hésitation ni d'aucune suffisance. Amulek se soumit de bon cœur à la volonté de Dieu, accepta un appel à prêcher l'Évangile et quitta sa situation prospère et les personnes qu'il connaissait bien. Et Pahoran sut relativiser et faire preuve d'une grande maîtrise de soi pour agir au lieu de réagir, tandis qu'il expliquait à Moroni les difficultés qu'avait engendré une rébellion contre le gouvernement. La vertu chrétienne de la douceur est souvent mal comprise dans le monde actuel. La douceur est forte, pas faible. Elle est active, pas passive. Elle est courageuse, pas timide. Elle fait preuve de retenue, pas d'excès. Elle est modeste, ne se met pas en avant. Elle est bienveillante, pas effrontée. Une personne douce ne s'irrite pas facilement. Elle n'est ni prétentieuse, ni autoritaire, et elle reconnaît, sans hésiter, les accomplissements d'autrui. L'humilité signifie généralement que l'on dépend de Dieu et que l'on a continuellement besoin de ses conseils et de son soutien. La douceur se caractérise par une réceptivité spirituelle particulière qui nous permet d'apprendre du Saint-Esprit et des personnes qui peuvent paraître avoir moins de capacités, d'expérience ou d'instruction, qui n'occupent peut-être pas de postes importants ou qui donnent l'impression de ne pas avoir beaucoup à offrir. Souvenez-vous de Naaman. Naaman, capitaine de l'armée du roi de Syrie, qui surmonta son orgueil pour accepter avec humilité le conseil de ses serviteurs d'obéir au prophète Élisée et de se laver 7 fois dans le Jourdain. La douceur est la protection principale contre la cécité qu'engendre l'orgueil et qui résulte souvent de la notoriété, du rang social, du pouvoir, de la richesse et de l'adulation. La douceur est une vertu que l'on acquiert par le désir, le juste exercice du libre arbitre et par les efforts constants pour conserver le pardon de ses péchés. C'est aussi un don spirituel qu'il est bon que nous recherchions. Cependant, nous devons nous souvenir du but dans lequel on reçoit cette bénédiction, à savoir pour le profit des enfants de Dieu. Tandis que nous allons au Sauveur et que nous le suivons, notre capacité de devenir semblable à lui augmente de plus en plus. L'Esprit nous donne une maîtrise de soi rigoureuse et un comportement calme et posé. Ainsi, la douceur est un état que nous atteignons en tant que disciples du Maître. Ce n'est pas simplement une manière d'agir. Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Cependant, c'était un homme très doux, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Sa connaissance et ses compétences auraient pu faire de lui un homme orgueilleux. Au lieu de cela, cet attribut ou don spirituel de la douceur qu'il avait reçu et atténué l'arrogance et a fait de lui un instrument pour accomplir les desseins de Dieu. On trouve les exemples les plus éloquents et les plus majestueux de douceur dans la vie du Sauveur lui-même. Le grand Rédempteur, qui est descendu au-dessous de tout, qui a souffert et a versé son sang, et qui est mort pour nous purifier de toute iniquité, a lavé avec tendresse les pieds poussiéreux de ses disciples. Une telle douceur est un trait distinctif du serviteur et du dirigeant qu'était le Seigneur. Jésus a donné l'exemple suprême d'une réaction parfaite et d'une soumission volontaire lors de sa souffrance atroce à Gethsémané. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il dit à ses disciples, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » La douceur que le Sauveur a manifestée au cours de cette expérience atroce, dont l'importance était éternelle, nous montre à tous combien il est essentiel de placer la sagesse de Dieu avant la nôtre. La soumission volontaire et la maîtrise de soi dont le Sauveur a constamment fait preuve sont impressionnantes et nous pouvons tous en tirer des leçons. Lorsqu'une cohorte de soldats romains et des gardes du temple arrivèrent à Gethsémané pour s'emparer de Jésus, Pierre tira son épée et coupa l'oreille droite du serviteur du souverain sacrificateur. Le Sauveur toucha alors l'oreille du serviteur et le guérit. Veuillez noter qu'il tendit la main pour bénir la personne qui allait l'arrêter en utilisant le même pouvoir divin qui aurait pu l'empêcher de se faire prendre et de se faire crucifier. Examinez aussi la manière dont le maître fut accusé et condamné devant Pilate à être crucifié. Au moment où on le trahissait, Jésus avait déclaré, « Penses-tu que je ne puisse invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Cependant, le juge éternel des vivants et des morts fut jugé, paradoxalement, devant un homme politique nommé à titre temporaire. Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. La douceur du Sauveur se manifeste dans sa réaction pleine de maîtrise et son refus d'utiliser son pouvoir infini pour son profit personnel. Mormon dit de la douceur qu'elle est le fondement de toutes les aptitudes et de tous les dons spirituels. C'est pourquoi, si un homme a la foi, il doit nécessairement avoir l'espérance, car sans la foi, il ne peut y avoir d'espérance. Et en outre, voici je vous dis qu'il ne peut avoir la foi et l'espérance s'il n'est doux et humble de cœur. Sinon, sa foi et son espérance sont vaines, car nul n'est acceptable devant Dieu, si ce n'est ceux qui sont doux et humbles de cœur. Et si un homme est doux et humble de cœur et confesse par le pouvoir du Saint-Esprit que Jésus est le Christ, il doit nécessairement avoir la charité, car s'il n'a pas la charité, il n'est rien. C'est pourquoi il doit nécessairement avoir la charité. Le Seigneur a déclaré, « Bénis sont ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » La douceur est un aspect essentiel de la nature divine que l'on peut recevoir et cultiver personnellement grâce à l'expiation du Sauveur. Je témoigne que Jésus, Christ, est notre Rédempteur ressuscité et vivant. Et je promets qu'il nous guidera, nous protégera et nous fortifiera si nous marchons dans l'humilité de son esprit. Je témoigne ces vérités et de ces promesses au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Il y a quelques années, des amis ont eu un magnifique bébé qu'ils ont prénommé Brigham. Peu après sa naissance, on a découvert qu'il avait une maladie rare, le syndrome de Hunter, et que malheureusement sa vie serait courte. Un jour, tandis que Brigham et sa famille visitaient les jardins du temple, il a prononcé deux fois l'expression « un jour de plus ». Le lendemain, il est mort. Je me suis rendu plusieurs fois sur la tombe de Brigham, et chaque fois, je réfléchis à l'expression « un jour de plus ». Je me demande ce que cela signifierait et les effets que cela aurait sur ma vie si je savais qu'il ne me reste plus qu'un jour à vivre. Comment traiterais-je ma femme, mes enfants et les autres? Quel serait mon degré de patience et de politesse? Comment prendrais-je soin de mon corps? Avec quelle ferveur prierais-je ou étudierais-je les Écritures? Je pense qu'un jour, d'une façon ou d'une autre, nous prendrons tous conscience qu'il nous reste un jour de plus. Conscience que nous devons utiliser le temps dont nous disposons avec sagesse. Dans l'Ancien Testament, on peut lire l'histoire d'Ézéchias, roi de Juda. Le prophète Ésaïe lui annonce qu'il va bientôt mourir. Ézéchias commence alors à prier, à implorer le Seigneur et à pleurer amèrement. À cette occasion, Jéhovah prolonge la vie d'Ézéchias de 15 années. Si l'on venait nous annoncer qu'il ne nous reste que peu de temps à vivre, il y a de fortes chances pour que nous aussi nous implorions qu'on rallonge la durée de notre vie au nom de ce que nous aurions dû faire ou faire différemment. Quel que soit le temps que le Seigneur de sa sagesse accorde à chacun de nous ici-bas, il y a une chose dont nous pouvons être sûrs, c'est que nous avons un aujourd'hui à vivre et que la clé de la réussite de notre journée et que nous soyons disposés à faire des sacrifices. Le Seigneur a déclaré, voici, le temps qui nous sépare de la venue du Fils de l'homme s'appelle aujourd'hui, en vérité, c'est un jour de sacrifice. Le mot sacrifice vient des mots latins sacer, qui signifie sacré, et facere, qui signifie rendre. En d'autres termes, rendre les choses sacrées, les honorer. Que de faveurs viennent du sacrifice? Comment le sacrifice peut-il apporter des bénédictions à nos jours et leur donner un sens? Premièrement, le sacrifice personnel nous fortifie et donne de la valeur aux choses pour lesquelles nous le faisons. Il y a quelques années, lors d'un dimanche de jeûne, une sœur âgée est montée à la chaire et a témoigné. Elle vivait à Iquitos, ville de l'Amazonie péruvienne. Elle nous a dit que depuis son baptême, elle avait toujours eu pour objectif de recevoir les ordonnances du temple à Lima, au Pérou. Elle avait finalement payé une dîme complète et économisé ses maigres revenus pendant des années. Elle a exprimé sa joie de s'être rendue au temple et d'y avoir reçu les ordonnances sacrées par ses paroles. Aujourd'hui, je peux dire que je me sens enfin prête à traverser le voile. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Vous ne pouvez pas savoir combien de temps cela m'a pris pour économiser et être en mesure de me rendre au temple. Mais après 7 jours de bateau et 18 heures de car, j'étais enfin dans la maison du Seigneur. En quittant ce lieu sacré, je me suis dit qu'après tous les sacrifices qu'il m'avait fallu faire pour me rendre au temple, Je ne permettrai jamais à quoi que ce soit de me faire prendre à la légère les alliances que j'avais contractées. Ce serait du gâchis. C'est un engagement très sérieux. Cette gentille sœur m'a appris que le sacrifice personnel possède une force inestimable qui guide nos choix et notre détermination. Le sacrifice personnel guide également nos actes, notre engagement et nos alliances et donne un sens sacré aux choses. Deuxièmement, les sacrifices que nous faisons pour les autres et ceux que les autres font pour nous apportent des bénédictions à chacun. Lorsque j'étais étudiant à l'école dentaire, les perspectives économiques locales n'étaient pas très encourageantes. Du jour au lendemain, l'inflation avait considérablement dévalué notre monnaie. Je me souviens de l'année où j'ai dû m'inscrire pour suivre les cours de technique chirurgicale. Je devais avoir tout l'équipement chirurgical nécessaire avant de pouvoir m'inscrire pour ce semestre. Mes parents avaient économisé l'argent nécessaire, mais un soir, il s'est produit quelque chose de terrible. Nous sommes sortis pour acheter l'équipement, mais nous avons découvert que l'argent que nous avions suffisait tout juste à acheter une pince chirurgicale et rien d'autre. Nous sommes rentrés chez nous, les mains vides et le cœur lourd, à l'idée que j'allais perdre tout un semestre universitaire. Tout à coup, ma mère m'a dit, « Taylor, viens avec moi, sortons. » Nous sommes allés en ville, dans un quartier où beaucoup de magasins achètent et revendent des bijoux. Nous sommes entrés dans un magasin et ma mère a sorti de son sac un petit sac en velours bleu contenant un magnifique bracelet portant l'inscription « À ma merveilleuse fille de la part de ton père ». C'était un bracelet que mon grand-père lui avait offert à l'un de ses anniversaires. Puis, devant mes yeux, elle l'a vendu. Lorsqu'elle a reçu l'argent, elle m'a dit « S'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que tu seras dentiste. Va et achète tout l'équipement dont tu as besoin. » À votre avis, mes frères et sœurs, quel genre d'étudiant suis-je devenu après cela? Je voulais être le meilleur et finir mes études rapidement, car je connaissais le coût élevé du sacrifice qu'elle faisait. J'ai appris que les sacrifices de nos êtres chers font, que nos êtres chers font pour nous, nous rafraîchissent comme l'eau fraîche au milieu du désert. Ces sacrifices nous donnent espoir et motivation. Troisièmement, tous les sacrifices que nous faisons sont petits comparés aux sacrifices du Fils de Dieu. Quelle est la valeur d'un bracelet que l'on chérit comparé à celle du sacrifice du Fils de Dieu? Comment pouvons-nous honorer ce sacrifice infini? Chaque jour, nous pouvons nous rappeler que nous avons un jour de plus à vivre et être fidèles. Amulek a enseigné, « Oui, je voudrais que vous avanciez et ne vous endurcissiez plus le cœur, car voici, c'est maintenant le moment et le jour de votre salut. Et c'est pourquoi si vous vous repentez et ne vous endurcissez pas le cœur, c'est immédiatement que le grand plan de rédemption se réalisera pour vous. » En d'autres termes, si nous présentons au Seigneur le sacrifice d'un cœur brisé et d'un esprit contrit, les bénédictions du grand plan du bonheur se manifestent immédiatement dans notre vie. Le plan de rédemption est rendu possible par le sacrifice de Jésus-Christ. Il a décrit le sacrifice. Et ses souffrances m'ont fait trembler de douleur. Moi, Dieu, le plus grand de tous, elles m'ont fait saigner à chaque pore et m'ont fait souffrir de corps et d'esprit. Et j'ai voulu ne pas devoir boire la coupe amère et pouvoir me dérober. Et c'est grâce à ce sacrifice qu'après le repentir sincère, nous pouvons ressentir que le poids de nos péchés et de nos fautes est ôté de nos épaules. En fait, la culpabilité, la honte, le chagrin et le mépris pour nous-mêmes sont remplacés par une conscience nette, le bonheur, la joie et l'espérance. En même temps, en honorant son sacrifice et en honorant, nous pourrons recevoir l'intense désir d'être de meilleurs enfants de Dieu, de nous tenir à l'écart du péché et de respecter nos alliances comme jamais auparavant. Puis, comme Enos, après avoir reçu le pardon de nos péchés, nous ressentirons le désir de nous sacrifier et de rechercher le bien-être de nos frères et sœurs. Et nous serons plus enclins à suivre chaque jour chaque jour de plus l'invitation lancée par le présentateur quand il a dit « Régler une dispute, rechercher un ami perdu de vue, dissiper la suspicion et remplacer-la par la confiance, donner une réponse douce, encourager les jeunes, manifester votre loyauté en parole et en action, tenez une promesse, oubliez une rancune, pardonnez un ennemi, présentez des excuses, essayez de comprendre, analysez ce que vous exigez des autres, pensez d'abord à quelqu'un d'autre, soyez bon, soyez gentil, riez un peu plus, exprimez votre reconnaissance, accueillez un inconnu, réjouissez le cœur d'un enfant, exprimez votre amour encore et encore. » Fin de citation. Puissions-nous remplir nos jours de cette impulsion et de cette force qui découle de nos sacrifices personnels, de ceux que nous faisons pour les autres et que les autres font pour nous. Et puissions-nous d'une manière toute particulière goûter la paix et la joie que le sacrifice du Fils unique nous offre, cette paix mentionnée lorsque nous lisons « Qu'Adam tomba pour que les hommes fussent » et que les hommes, vous y compris, sont pour avoir la joie. Cette joie est la joie véritable que seul le sacrifice expiatoire du Sauveur Jésus-Christ peut procurer. C'est ma prière que nous lui suivrons, que nous nous croyons en lui, que nous l'aimions, que nous ressentions l'amour dont il a fait preuve par son sacrifice, chaque fois que la possibilité nous est donnée de vivre un jour de plus. Au nom de Jésus-Christ, amen.
En lisant cette longue liste de noms, j'ai oublié deux frères que j'aimerais que vous puissiez soutenir, qui sont des autorités d'interrégion. Silvio Flores, Victor Patrick. Tous ceux qui peuvent soutenir ces frères dans cet appel veulent lever la main. Toute personne opposée, de la même manière, merci. Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter « Bien choisir » le 154 dans le recueil français. Après le cantique, nous entendrons Bonnie Oscarsson, qui a été relevée aujourd'hui de son appel de présidente générale de l'Organisation des jeunes filles. Elle sera suivie de Daniela Wakolo, des 70. Puis Devin Durand, premier conseiller dans la présidence générale de l'École du dimanche, s'adressera à nous. Ensuite, le chœur va chanter un medley du camp de Sion.
Vous assistez à la 188e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
A year ago, in the General Priesthood Session of Conference, Bishop Harold Kosse spoke to the men of the Church, describing how Aaronic and Melchizedek priesthood holders are inseparable partners.
L'évêque président Gérald Kosse s'est adressé
au... Ce message a été une grande bénédiction car il aide les jeunes gens qui détiennent la prêtrise d'Aaron à voir le rôle qu'ils jouent dans l'édification du royaume de Dieu sur la terre. Leur service conjoint fortifie l'Église et suscite une conversion et un engagement plus profond de nos jeunes gens quand ils voient la grande valeur de leur contribution et combien cette œuvre est magnifique. Aujourd'hui, je voudrais ajouter mes remarques à la fin de ce message pour parler de la façon dont les jeunes filles de l'Église sont tout aussi utiles et essentielles à l'accomplissement de l'œuvre du Seigneur dans leur famille et dans son Église. Comme frère Kosse, j'ai vécu dans une petite branche de l'Église pendant une bonne partie de mes années d'adolescence et l'on m'a souvent demandé de remplir des tâches et des appels qui auraient normalement dû être accomplis par des adultes. Par exemple, ceux d'entre nous qui étaient impliqués dans le programme des jeunes prenaient souvent la direction pour organiser nos propres activités et manifestations spéciales. Nous avons écrit des pièces, formé un groupe de chanteurs pour les activités de branche et nous participions très activement à chaque réunion. J'ai été appelée directrice de la musique de branche et j'ai dirigé les cantiques de la réunion de Sainte-Seine chaque semaine. C'était une expérience magnifique pour la jeune fille de 16 ans que j'étais de se tenir devant tous les membres de la branche chaque dimanche et de les diriger pour chanter les cantiques. Je sentais qu'on avait besoin de moi et je savais que je pouvais apporter quelque chose. Des gens comptaient sur moi et j'ai même senti utile. Cette expérience m'a aidé à édifier mon témoignage de Jésus-Christ et comme cela a été le cas pour frère Kosse, cela a ancré ma vie dans le service de l'Évangile. Chaque membre doit savoir combien il est utile. Chaque personne a quelque chose d'important à apporter et possède des talents et des capacités uniques qui contribuent à faire avancer cette œuvre. Nos jeunes gens ont des devoirs de la prêtrise d'Aaron décrits dans les doctrines et alliances qui sont bien évidents et apparents. Il peut être moins évident pour les jeunes filles de l'Église, leurs parents et leurs dirigeants que, depuis le moment de leur baptême, elles ont, du fait de leurs alliances, la responsabilité de pleurer avec ceux qui pleurent, consoler ceux qui ont besoin de consolation et être les témoins de Dieu en tout temps, toutes choses et dans tous les lieux où elles seront jusqu'à la mort. Les jeunes filles ont des occasions d'assumer ces responsabilités dans leur paroisse et branches quand elles servent dans des résidence de classe, des conseils de jeunes et dans d'autres appels. Chaque jeune fille de l'Église doit ressentir qu'elle a de la valeur, avoir des occasions de servir et ressentir qu'elle a quelque chose de remarquable à apporter à cette œuvre. Dans le manuel 2, administration de l'Église, nous apprenons que cette œuvre de salut dans nos paroisses comprend l'œuvre missionnaire par les membres, le maintien des convertis dans l'Église, la remotivation des membres non pratiquants, l'œuvre du temple et de l'histoire familiale, ainsi que l'enseignement de l'Évangile. Nos évêques fidèles, qui détiennent les clés de la prêtrise dans leur paroisse, dirigent cette œuvre dans leur unité. Depuis de nombreuses années maintenant, notre présidence pose la question « Dans lequel de ces domaines mentionnés, nos jeunes filles ne doivent-elles pas être impliquées ?» La réponse est qu'elles ont une contribution à apporter dans tous les domaines de cette œuvre. Par exemple, j'ai récemment rencontré plusieurs jeunes filles de l'interrégion de Las Vegas qui ont été appelées à servir comme consultantes de l'œuvre de l'histoire familiale et du temple. L'idée de pouvoir enseigner aux membres de leur paroisse à trouver leurs ancêtres et les y aider les passionnait. Elles avaient des compétences précieuses en informatique, avaient appris à utiliser le site de FamilySearch et étaient impatientes de transmettre ces connaissances. Il était clair qu'elles avaient un témoignage et une compréhension de l'importance de rechercher les noms de nos ancêtres décédés afin que des ordonnances essentielles puissent être accomplies pour eux dans le temple. Il y a plusieurs mois, j'ai eu l'occasion de tester une idée avec deux jeunes filles de 14 ans. Je me suis procuré des exemplaires de deux ordres du jour réels de conseils de paroisse et en ai donné un à Emma et l'autre à Maggie. Je leur ai demandé de les lire et de voir s'il y avait des plans d'action de ces conseils de paroisse dans lesquels elles pourraient être utiles. Emma a vu qu'une nouvelle famille emménageait dans la paroisse et elle a dit qu'elle pourrait l'aider à s'installer et à déballer ses affaires. Elle a pensé qu'elle pourrait se lier d'amitié avec les enfants de la famille et leur faire visiter leur nouvelle école. Elle a remarqué qu'il y allait avoir un repas de paroisse et a pensé qu'elle pourrait proposer ses services de bien des façons différentes. Maggie a remarqué que plusieurs personnes âgées de la paroisse avaient besoin de recevoir des visites et d'être intégrées. Elle a dit qu'elle aimerait beaucoup rendre visite à ses membres âgés et les aider. Elle a aussi pensé qu'elle pourrait enseigner aux membres de la paroisse comment créer et utiliser des comptes de réseaux sociaux. Il n'y avait vraiment rien dans ses ordres du jour à quoi ces deux jeunes filles n'auraient pas pu apporter leur aide. Les personnes qui siègent dans les conseils de paroisse ou ont un appel dans la paroisse voient-elles les jeunes filles comme des aides précieuses pour contribuer à répondre aux nombreux besoins de nos paroisses? Il y a généralement une longue liste de situations qui requièrent l'aide de quelqu'un et nous pensons souvent uniquement aux adultes de la paroisse pour répondre à ces besoins. De même que l'on invite nos détenteurs de la prêtrise d'Aaron à œuvrer avec leur père et d'autres hommes de la prêtrise de Melchizedek, on peut de même faire appel à nos jeunes filles pour rendre service et répondre aux besoins des membres de la paroisse avec leur mère ou d'autres sœurs exemplaires. Elles sont capables, bien disposées et désireuses de faire tellement plus que simplement aller à l'église le dimanche. En réfléchissant au rôle que nos jeunes filles seront appelées à assumer dans un avenir proche, nous pourrions nous demander quel genre d'expérience nous pourrions leur donner maintenant qui les aiderait à se préparer à être des missionnaires, des érudites de l'Évangile, des dirigeantes dans les auxiliaires de l'Église, des servantes des ordonnances du Temple, des épouses, des mères, des guides spirituels, des exemples et des amis. Elles peuvent en fait commencer dès maintenant à remplir bon nombre de ces rôles. Le dimanche, on demande souvent aux jeunes d'aider à enseigner les leçons dans leur classe. Quand elles vont au temple avec leur groupe de jeunes pour accomplir des baptêmes pour les morts, nos jeunes filles ont maintenant la possibilité d'accomplir un service au temple que des servantes des ordonnances ou des bénévoles effectuaient auparavant. On invite maintenant nos fillettes d'âge de la primaire à assister aux réunions de préparation au service dans la prêtrise et au temple, ce qui les aidera à comprendre qu'elles aussi sont des participantes importantes à l'œuvre dirigée par la prêtrise. Elles apprendront que les hommes, les femmes, les jeunes et les enfants sont tous bénéficiaires des bénédictions de la prêtrise et peuvent tous jouer un rôle actif dans l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Frères évêques, nous savons que vos devoirs sont souvent lourds, mais de même qu'une de vos grandes priorités consiste à présider les collèges de la prêtrise d'Aaron, le manuel 2 explique que l'évêque et ses conseillers assurent la direction de la prêtrise pour l'organisation des jeunes filles. Ils veillent sur les jeunes filles et les fortifient individuellement, collaborant étroitement avec les parents et les dirigeants des jeunes filles dans cet effort. Il déclare également que l'évêque et ses conseillers participent régulièrement aux réunions, aux projets de service et aux activités des jeunes filles. Nous sommes reconnaissantes aux évêques qui prennent le temps de rendre visite aux classes des jeunes filles et qui leur donnent des occasions d'être davantage que des spectatrices de l'œuvre. Nous sommes reconnaissantes aux évêques qui s'assurent que leurs jeunes filles sont des participantes appréciées pour répondre aux besoins des membres de la paroisse. Ces occasions de servir de façon significative leur bénéficient bien plus que des activités dans lesquelles on se contente de les divertir. Jeunes filles de l'Église, vos années d'adolescence peuvent être chargées, souvent exigeantes. Nous avons remarqué que vous êtes bien plus nombreuses qu'avant à rencontrer des problèmes d'estime de soi, d'angoisse, de niveau de stress élevé, voire de dépression. Il est possible que le fait de détourner vos pensées de vos problèmes personnels ne résolve toutes ces difficultés, mais le service peut souvent alléger vos fardeaux et faire en sorte que vos épreuves vous semblent moins pénibles. Un des meilleurs moyens d'accroître l'estime de soi est de montrer par notre souci et notre service à autrui que nous avons beaucoup à apporter. Je vous recommande de lever la main pour vous porter volontaire et vous mettre au travail quand vous voyez des besoins autour de vous. Si vous assumez vos responsabilités liées à vos alliances et participez à l'édification du royaume de Dieu, des bénédictions afflueront dans votre vie et vous découvrirez la joie profonde et durable d'être un disciple. Frères et sœurs, nos jeunes filles sont remarquables. Elles ont des talents, un enthousiasme sans limite, de l'énergie, de la compassion et de la sollicitude. Elles veulent être utiles. Elles ont besoin de savoir qu'elles ont de la valeur et qu'elles sont essentielles dans l'œuvre du salut. De même que la prêtrise d'Aaron est une préparation à un service plus grand à mesure que les jeunes gens progressent vers la prêtrise de Melchizedek, nos jeunes filles se préparent à devenir membres de la plus grande organisation de femmes sur la terre, la Société de Secours. Ensemble, ces jeunes filles et ces jeunes gens, beaux, fidèles et forts, se préparent à être des épouses et des maris, des mères et des pères qui élèveront des enfants dignes du royaume céleste de Dieu. Je témoigne que l'œuvre de notre Père céleste consiste à réaliser l'immortalité, la vie éternelle de ses enfants. Nos précieuses jeunes filles ont un rôle important à jouer en contribuant à accomplir cette grande œuvre. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Frères et sœurs, je me réjouis avec vous de l'Évangile, la doctrine du Christ. Un jour, un ami a demandé à Neil L. Anderson, alors membre du Collège des 70, ce que cela faisait de prendre la parole devant 21 000 personnes rassemblées au centre de conférence. Il a répondu, « Ce n'est pas la présence des 21 000 personnes qui rend nerveux, c'est celle des 15 frères assis derrière soi. » À l'époque, cela m'a fait sourire. Aujourd'hui, je comprends ce qu'il voulait dire. J'aime profondément ces 15 frères et je les soutiens comme prophètes, voyants et révélateurs. Le Seigneur a dit à Abraham qu'à travers sa postérité et sa prêtrise, toutes les familles de la terre seraient bénies des bénédictions de l'Évangile, c'est-à-dire de la vie éternelle. Ces bénédictions promises furent accordées lorsque l'Évangile et la prêtrise furent établis sur la terre. Puis en 1842, Joseph Smith, le prophète, administra la dotation à un nombre limité d'hommes et de femmes. Merci Fielding Thompson en faisait partie. Le prophète lui a déclaré « Cette dotation vous fera passer des ténèbres à une admirable lumière ». Aujourd'hui, j'ai choisi de parler des ordonnances salvatrices qui nous apporteront, à vous et moi, une admirable lumière. Dans le manuel ancré dans la foi, nous lisons « Une ordonnance est un acte sacré et officiel accompli par l'autorité de la prêtrise. Les ordonnances qui sont indispensables à l'exaltation sont appelées ordonnances salvatrices. Elles comprennent le baptême, la confirmation, l'ordination à la prêtrise de Melchisédek pour les hommes, la dotation du temple et le scellement du mariage. » David Bednar a enseigné « Les ordonnances du salut et de l'exaltation qui sont administrées dans l'Église rétablie du Seigneur constituent les canaux de la prêtrise autorisée à travers lesquels les bénédictions et les pouvoirs des cieux peuvent se déverser dans notre vie. Comme les deux faces d'une pièce de monnaie, toutes les ordonnances salvatrices s'accompagnent d'alliances que l'on contracte avec Dieu. Dieu nous a promis des bénédictions si nous respectons fidèlement ces alliances. Le prophète Amulek a déclaré « C'est le moment de se préparer à rencontrer Dieu. Comment nous y préparons-nous? En recevant dignement les ordonnances. Nous devons aussi, selon l'expression du président Nelson, rester sur le chemin des alliances. Le président Nelson a expliqué « Votre engagement de suivre le Sauveur et de contracter des alliances avec lui, puis de les respecter, ouvrira la porte à toutes les bénédictions spirituelles et à tous les droits sacrés accessibles aux hommes, aux femmes et aux enfants, où qu'ils soient. » John et Bonnie Newman, comme beaucoup d'entre nous, reçoivent les bénédictions spirituelles promises par le président Nelson. Un dimanche, en revenant de l'église avec ses trois jeunes enfants, Bonnie a dit à John, qui n'était pas membre de l'église, « Je ne peux pas continuer seul. Tu dois prendre une décision. Venir à mon église avec nous, ou bien choisir une église à laquelle nous irons ensemble. Les enfants ont besoin de savoir que leur père aussi aime Dieu. » Ce dimanche-là, et tous ceux qui ont suivi, John a non seulement assisté aux réunions, mais il a aussi été pianiste dans plusieurs paroisses, branches et primaires pendant des années. J'ai eu le bonheur de rencontrer John en avril 2015. Nous avons discuté et je lui ai expliqué que la meilleure façon de manifester son amour pour Bonnie était de l'emmener au temple. Mais cela n'était possible qu'à condition qu'il se fasse baptiser. En 2015, après avoir assisté aux réunions de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, pendant 39 ans, John s'est fait baptiser. Un an plus tard, John et Bonnie ont été scellés dans le temple de Memphis. Leur fils, Robert, âgé de 47 ans, a fait cette remarque. Papa est vraiment transformé depuis qu'il a reçu la prêtrise. Bonnie a ajouté, John a toujours été quelqu'un d'heureux, de joyeux. Néanmoins, d'avoir reçu les ordonnances et de respecter ses alliances l'a rendu plus gentil encore. Il y a de nombreuses années, Boyd K. Packer a fait cette mise en garde. Sans les ordonnances de l'Évangile, une bonne conduite ne pourra ni racheter ni exalter l'humanité. Fin de citation. En fait, les ordonnances et les alliances ne sont pas suffisantes non plus pour revenir auprès de notre Père. Nous avons également besoin de son Fils Jésus-Christ et de son expiation. Le roi Benjamin a enseigné que ce n'est que dans et par le nom du Christ que le salut peut parvenir aux enfants des hommes. Par son expiation, Jésus-Christ nous a racheté des conséquences de la chute d'Adam et a rendu possible le repentir et l'exaltation. Par sa vie, il nous a montré l'exemple à suivre pour recevoir les ordonnances salvatrices dans lesquelles le pouvoir de la divinité se manifeste. Après que le Sauveur a reçu l'ordonnance du baptême pour accomplir tout ce qui est juste, Satan l'a tenté. De même, nos tentations ne prennent pas fin une fois que nous avons été baptisés ou scellés. Cependant, la réception des ordonnances sacrées et le respect des alliances qui leur sont associées nous remplissent d'une admirable lumière et nous donnent la force de résister et de surmonter les tentations. Ésaïe a prophétisé que, dans les derniers jours, le pays serait profané, car les gens violeraient les ordonnances. Une mise en garde semblable révélée à Joseph Smith, le prophète, dit que certains s'approchent du Seigneur des lèvres, enseignent pour doctrine des commandements d'hommes ayant une forme de piété, mais en nient la puissance. Paul a aussi averti Timothée que beaucoup auraient l'apparence de la piété, reniant ce qui en fait la force. Il a ajouté « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Je répète ces paroles « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Les nombreuses distractions et tentations de la vie sont comme des loups ravisseurs. Le vrai berger préparera, protégera et avertira les brebis de l'approche de ces loups. En tant que berger assistant qui s'efforce d'imiter la vie parfaite du bon berger, ne sommes-nous pas à la fois les gardiens de notre âme et de celle d'autres personnes? Grâce au conseil de nos prophètes voyants et révélateurs que nous venons de soutenir, et grâce au pouvoir et au don du Saint-Esprit, nous pouvons voir les loups approcher. Si nous sommes attentifs et préparés, en revanche, lorsque nous sommes des bergers désinvoltes et ne veillons pas sur notre âme et celle des autres comme nous le devrions, il risque d'y avoir des victimes. La désinvolture fait des victimes. J'invite chacun d'entre nous à être un berger fidèle. L'ordonnance de la Sainte Cène nous aide à rester sur le chemin. En y participant dignement, nous témoignons que nous respectons les alliances associées à toutes les autres ordonnances. Il y a quelques années, alors que ma femme Anita et moi servions dans la mission de Little Rock, j'ai accompagné deux jeunes missionnaires à un rendez-vous d'enseignement. Pendant la leçon, le brave frère que nous instruisions a dit « Je suis allé à votre église. Pourquoi devez-vous manger du pain et boire de l'eau tous les dimanches ?» Dans notre église, nous le faisons deux fois par an, à Pâques et à Noël. Et d'ailleurs, c'est très significatif. Nous lui avons expliqué qu'on nous a commandé de nous réunir souvent pour prendre le pain et le vin. Nous avons lu à voix haute Matthieu 26 et 3 Néphi 18. Il a répondu qu'il ne voyait toujours pas la nécessité de le faire. Nous avons ensuite fait la comparaison suivante. Imaginez que vous êtes impliqué dans un très grave accident de voiture. Vous êtes blessé et inconscient. Quelqu'un passe par là, vous voit évanoui et téléphone au secours. On vous prodigue des soins et vous reprenez connaissance. Nous avons demandé au frère, dès que vous êtes en mesure de voir où vous êtes, quelles questions poserez-vous ? Il a répondu, « Je souhaiterais comprendre comment je suis arrivé là et qui m'a trouvé. Je voudrais le remercier tous les jours de m'avoir sauvé la vie. » Nous avons dit à ce brave frère que le Sauveur nous a sauvé la vie et que pour cela, nous devons le remercier tous les jours, encore et encore. Nous lui avons ensuite demandé, sachant qu'il a donné sa vie pour vous et pour nous, À quelle fréquence voulez-vous manger le pain et boire l'eau, les emblèmes de son corps et de son sang? Il a dit, je vois, j'ai compris. Mais encore une chose, votre Église n'est pas aussi animée que la nôtre. Nous avons poursuivi. Comment réagiriez-vous si le Sauveur Jésus-Christ passait le seuil de votre maison? Il a dit, à l'instant même, je tomberai à genoux. Nous avons alors demandé, n'est-ce pas ce que vous ressentez lorsque vous entrez dans nos églises, de la révérence à l'égard du Sauveur? Il a dit, je vois, j'ai compris. Il est venu à l'église ce dimanche de Pâques et y est retourné les dimanches suivants. J'invite chacun de nous à se demander, quelles ordonnances, y compris la Sainte Cène, ai-je besoin de recevoir? Et quelles alliances ai-je besoin de contracter, de respecter? Je vous promets que si vous participez aux ordonnances et respectez les alliances qui y sont associées, cela vous apportera une admirable lumière, ainsi qu'une protection dans ce monde qui s'assombrit de plus en plus. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Ma femme Julie et moi avons élevé nos 6 enfants. Et depuis peu, le nid familial est vide. La présence à plein temps de nos enfants à la maison me manque beaucoup. Cela me manque d'apprendre d'eux et de les instruire. Aujourd'hui, j'adresserai mes remarques à tous les parents et à toutes les personnes qui désirent être parents. Beaucoup d'entre vous élèvent des parents, des enfants en ce moment même. Pour d'autres, ce temps peut être proche. Pour d'autres encore, la bénédiction d'être parent est encore loin. Je prie pour que nous soyons tous conscients de la responsabilité joyeuse et sacrée qu'il y a d'instruire un enfant. En tant que parents, nous enseignons à nos enfants qui sont notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ. Nous les aidons à faire leur première prière. Nous les guidons et les soutenons quand ils entrent sur le chemin de l'Alliance par le baptême. Nous leur enseignons l'obéissance au commandement de Dieu. Nous leur enseignons son plan pour ses enfants et nous les aidons à reconnaître les murmures du Saint-Esprit. Nous leur racontons l'histoire des anciens prophètes et les encourageons à suivre ceux d'aujourd'hui. Nous prions pour qu'ils réussissent et souffrons avec eux dans leurs épreuves. Nous leur rendons témoignage des bénédictions du Temple et nous nous efforçons de bien les préparer à faire une mission à plein temps. Nous leur donnons des conseils aimants lorsqu'ils deviennent parents eux-mêmes. Mais même à ce moment-là, nous ne cessons pas d'être leurs parents. Nous ne cessons pas d'être leurs instructeurs. Nous ne sommes jamais relevés de cet appel éternel. Aujourd'hui, réfléchissons à certaines des merveilleuses occasions que nous avons d'instruire nos enfants dans notre foyer. Commençons par la soirée familiale qui est hautement prioritaire dans tout foyer où règne la foi, comme celui dans lequel j'ai grandi. Je ne me souviens pas de leçons précises de soirée familiale, mais je me rappelle que nous ne manquions jamais une semaine. Je savais ce qui était important pour mes parents. Je me souviens d'une de mes activités de soirée familiale préférées. Papa demandait à l'un des enfants de passer le test. Je lui donnais une série d'instructions comme, premièrement, va dans la cuisine, ouvre et referme le réfrigérateur. Ensuite, va en courant dans ma chambre et prends une paire de chaussettes dans mon armoire. Puis reviens vers moi, saute sur place 3 fois et dit, papa, je l'ai fait. J'adorais quand c'était mon tour. Je voulais réussir chaque étape et j'aimais le moment où je pouvais dire, papa, je l'ai fait. Cette activité m'a aidé à gagner en confiance et a permis au garçon agité que j'étais de fixer son attention quand ma mère ou mon père nous enseignait un principe de l'Évangile. Gordon Hinckley a dit, « Si vous avez des doutes sur l'importance de la soirée familiale, essayez-la. Réunissez vos enfants autour de vous, instruisez-les, rendez leur témoignage, lisez les Écritures, amusez-vous ensemble. » Il y aura toujours de l'opposition pour vous empêcher de tenir la soirée familiale. Néanmoins, je vous exhorte à trouver le moyen de contourner les obstacles et de faire la soirée familiale une priorité, dont la partie amusement sera un ingrédient essentiel. La prière en famille est une excellente occasion d'instruire. J'aime la façon dont Nathaniel Tanner a été instruit par son père pendant la prière en famille. Le président Tanner a dit, « Je me souviens d'un soir où nous étions agenouillés pour prier en famille. S'adressant au Seigneur, mon père a dit, « Aujourd'hui, Eldon a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Il est désolé. Et si tu lui pardonnes, il ne recommencera plus. » Cela m'a donné la détermination de ne plus le refaire, bien plus que ne l'aurait fait une correction. Enfin, je m'énervais parfois du nombre excessif, en apparence, de prières en famille. Et je me disais, « N'avons-nous pas prié il y a déjà quelques minutes ? » Aujourd'hui que je suis parent, je sais que nous ne prions jamais trop en famille. J'ai toujours été impressionné par la façon dont notre Père Céleste présente Jésus-Christ comme son Fils bien-aimé. J'aime prier pour mes enfants en les nommant, quand ils m'écoutent dire à notre Père Céleste combien ils me sont chers. Il semble qu'il n'y ait pas de meilleur moment pour exprimer notre amour à nos enfants que lorsque nous prions avec eux ou les bénissons. Quand une famille se réunit pour prier humblement, les leçons enseignées sont puissantes et durables. L'enseignement parental, c'est comme le rôle du médecin de garde. Nous devons toujours être prêts à instruire nos enfants parce que nous ne savons jamais quand une occasion se présentera. Nous sommes comme le Sauveur dont la plupart des enseignements n'ont pas été donnés dans une synagogue, mais dans un contexte quotidien tout simple, tandis qu'il mangeait avec ses disciples, qu'il puisait l'eau d'un puits ou qu'il passait devant un figuier. Il y a des années, ma mère m'a dit que ses deux meilleures conversations sur l'Évangile avec mon frère aîné, Matt, avaient été un jour pendant qu'elle pliait le linge et une autre fois quand elle avait accompagné chez le dentiste. L'une des nombreuses choses que j'admirais chez ma mère était sa disposition à instruire ses enfants. Elle ne cessait jamais de les instruire. Quand j'étais évêque, ma mère, qui avait alors 78 ans, m'a dit que j'avais besoin d'une coupe de cheveux. Elle savait que je devais être un exemple. Elle n'a pas hésité à me le rappeler. Je t'aime, maman. En tant que père, je suis motivé à étudier, étendre personnellement les Écritures afin d'être capable de réagir quand il se présente une occasion spontanée d'instruire mes enfants et mes petits-enfants. Certains des meilleurs moments didactiques commencent par une question, une préoccupation dans le cœur d'un membre de la famille. Sommes-nous à l'écoute pendant ces moments-là? J'aime l'invitation de l'apôtre Pierre. Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Quand j'étais adolescent, mon père et moi aimions nous affronter pour voir qui avait la poignée de main la plus forte. Nous nous serrions la main le plus fort possible pour essayer de faire grimacer l'autre de douleur. Cela ne peut pas sembler très amusant aujourd'hui, mais curieusement, ça l'était à l'époque. Après l'un de ces affrontements, mon père m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Mon fils, tu as des mains fortes. J'espère que tes mains auront toujours la force de ne jamais toucher une jeune femme de manière inconvenante. » Puis il m'a exhorté à rester moralement pur et aider les autres à faire de même. Douglas Callister a dit de son père, « Un jour, alors qu'il rentrait de voyage d'affaires, mon père m'a dit spontanément, « J'ai payé ma dîme aujourd'hui. Sur le chèque, j'ai écrit « Merci ». Je suis très reconnaissant au Seigneur des bénédictions que ma famille reçoit. » Frère Callister a ensuite rendu cet hommage à son père instructeur. Il enseignait l'obéissance par ses actes et son attitude. Je pense qu'il est sage de nous demander de temps en temps, que vais-je enseigner ou que suis-je en train d'enseigner à mes enfants sur l'obéissance par mes actes et mes attitudes? L'étude des Écritures en famille est un cadre idéal pour enseigner la doctrine au foyer. Le président Nelson a dit, non seulement les parents doivent s'accrocher à la parole du Seigneur, mais ils ont aussi la mission divine de l'enseigner à leurs enfants. Quand Julie et moi élevions nos enfants, nous avons essayé d'être constants et créatifs. Une année, nous avons décidé de lire le livre de Mormon en espagnol en famille. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a appelé chacun de nos enfants qui a fait une mission en plein temps dans un pays de langue espagnole. Est-ce possible? Et c'est possible. J'ai été profondément touché quand Brian K. Ashton m'a raconté que son père et lui ont lu ensemble le livre de Mormon en entier pendant sa dernière année d'études secondaires. Frère Ashton aime les Écritures. Elles sont gravées dans son esprit, dans son cœur. Son père a planté cette semence quand frère Ashton était adolescent, et cette semence est devenue un arbre de vérité profondément enraciné. Frère Ashton a fait de même avec l'aîné de ses enfants. Dernièrement, son fils de 8 ans lui a demandé, « Papa, quand est-ce que je vais lire le livre de Mormon avec toi ?» Pour finir, notre enseignement parental le plus marquant est notre exemple. On nous recommande d'être un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Lors d'un récent voyage, Julie et moi sommes allés à une réunion de l'Église et avons vu ce verset en action. Un jeune homme dont le départ en mission approchait donnait un discours à la réunion de Sainte-Seine. Il a dit, vous pensez qu'à tous que mon père est un homme exceptionnel à l'Église, mais il a marqué une pause et j'étais inquiet de ce qu'il allait dire ensuite. Il a poursuivi, il est encore davantage à la maison. Plus tard, j'ai remercié ce jeune homme de l'hommage inspirant qu'il avait rendu à son père. J'ai découvert alors que son père était l'évêque de la paroisse. Cet évêque servait fidèlement la paroisse, mais son fils avait le sentiment que ce qu'il faisait au foyer était encore plus exceptionnel. Todd Christofferson a dit, nous avons de nombreux moyens d'instruire les jeunes de la génération montante et nous devrions consacrer nos pensées, nos efforts à en profiter au mieux. Nous devons surtout continuer d'encourager et d'aider les parents à être de meilleurs instructeurs, plus constants, surtout dans leur exemple. Fin de citation. C'est ainsi qu'enseigne le Sauveur. Lors de récentes vacances, en compagnie de nos deux plus jeunes enfants, Julie a suggéré que nous accomplissions des baptêmes par procuration dans le temple de Saint-Georges et dans celui de San Diego. Je me suis pris à murmurer en moi-même disant, « Nous allons au temple chez nous et maintenant nous sommes en vacances. Pourquoi ne pas faire quelque chose qui ressemble plus à des vacances ?» Après les baptêmes, Julie a voulu que nous fassions des photos à l'extérieur du temple. J'ai murmuré en silence encore une fois. Vous devinez ce que nous avons fait ensuite ? Nous avons pris des photos. Julie veut que nos enfants se souviennent de ce que nous avons fait pour nos ancêtres. Et moi aussi. Nous n'avions pas besoin d'avoir une leçon formelle sur l'importance des temples. Nous le vivions. Merci à une mère qui aime le temple et veut faire partager cet amour à ses enfants. Quand les parents se chérissent, ce sont des exemples justes. Les enfants sont bénis éternellement. Vous tous qui vous efforcez de votre mieux d'enseigner dans votre foyer, puissiez-vous trouver la paix et la joie dans vos efforts. Et si vous sentez que vous avez des progrès à faire ou avez besoin d'une meilleure préparation, n'hésitez pas à suivre humblement ce que dit l'Esprit et engagez-vous à agir. Eldon Perry a dit, « La santé de toute société et le bonheur, la prospérité et la paix du peuple trouvent leurs racines dans l'enseignement des enfants au foyer. » Oui, mon foyer est un nid vide aujourd'hui. Mais je suis toujours de garde, prêt et impatient de trouver de précieuses occasions d'instruire mes enfants adultes, leurs enfants, et un jour, j'espère, les enfants de leurs enfants. Je prie le ciel de nous aider dans nos efforts pour que, dans nos foyers, nous soyons des instructeurs à la manière du Christ. Au nom de Jésus-Christ, amen.
I saw.
Nous sommes reconnaissants à toutes les personnes qui se sont adressées à nous cet après-midi et de la belle musique qui a été interprétée. Nous rappelons aux frères que la réunion générale de la prêtrise commencera au centre de conférence ce soir à 18h, heure de Salt Lake City. La diffusion nationale de l'émission du Mormon Tabernacle Choir aura lieu demain matin de 9h30 à 10h, heure de Salt Lake City. La session du dimanche matin de la conférence suivra immédiatement. Le dernier orateur de cette session sera Del G. Renland du Collège des Douze Apôtres. Après son discours, le chœur clôturera cette réunion en chantant « J'irai où tu veux » 174. Ensuite, Peter Murs des 70 fera la prière de clôture. Frère Redlon. Mes chers frères et sœurs, les relations familiales peuvent être parmi les expériences les plus enrichissantes, mais aussi les plus difficiles de notre vie. Un grand nombre d'entre nous ont dû faire face à une déchirure au sein de leur famille. Une telle déchirure s'est produite entre deux héros du rétablissement de l'Église de Jésus-Christ dans ces derniers jours. Parley et Orson Pratt étaient frères. Ils faisaient partie des premiers convertis de l'Église et avaient été ordonnés apôtres. Chacun d'eux subit une mise à l'épreuve de sa foi dont il sortit avec un témoignage inébranlable. Tous deux firent des sacrifices pour la cause de la vérité et lui apportèrent beaucoup. Durant la période de nouveau, leur relation fut mise à rude épreuve. Et le pire fut atteint en 1846 lors d'une dispute publique très violente. Un fossé profond et durable se creusa entre eux. Parley écrivit à Orson dans le but de combler ce fossé, mais ce dernier ne répondit pas à sa lettre. Parley abandonna, avec le sentiment que toute correspondance était impossible, à moins qu'Orson n'en prenne l'initiative. Quelques années plus tard, en mars 1853, Orson eut connaissance d'un projet de publication d'un livre concernant William Pratt, le premier ancêtre américain des deux frères. Entrevoyant la valeur de ce trésor de son histoire familiale, Orson se mit à pleurer comme un petit enfant. Son cœur s'adoucit et il prit la décision de combler le fossé qui le séparait de son frère. Orson écrivit ceci à Parley. « Mon cher frère, aucun des descendants de notre ancêtre, le lieutenant William Pratt, n'a plus de raison que nous de rechercher ses descendants. » Orson fut l'un des premiers à comprendre l'obligation qui incombe, au sein des derniers jours, de rechercher et de compiler leur histoire familiale afin d'accomplir les ordonnances par procuration en faveur de leurs ancêtres. Sa lettre se poursuivait ainsi. Nous savons que la main du Dieu de nos pères y est pour quelque chose. J'implore ton pardon d'avoir été si long à te répondre. J'espère que tu me pardonneras. Leur témoignage était inébranlable. Toutefois, c'est l'amour de leurs ancêtres qui fut le catalyseur pour combler ce fossé, réparer la blessure, demander et accorder le pardon. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, il a souvent plusieurs objectifs à l'esprit. L'œuvre de l'histoire familiale et du temple ne concerne pas uniquement les morts, elle constitue également une bénédiction pour les vivants. Elle permet à Orson et à Parley de tourner leur cœur l'un vers l'autre. L'œuvre de l'histoire familiale et du temple a donné le pouvoir de guérison nécessaire. En tant que membres de l'Église, nous avons reçu de Dieu la responsabilité de rechercher nos ancêtres et de compiler notre histoire familiale. C'est bien plus qu'un passe-temps auquel on nous incite à nous adonner, car les ordonnances du salut sont nécessaires à tous les enfants de Dieu. Nous devons identifier nos ancêtres décédés qui n'ont pas reçu les ordonnances du salut. Nous pouvons accomplir ces ordonnances par procuration dans les temples et nos ancêtres peuvent choisir de les accepter. On nous recommande aussi d'aider les membres des paroisses et des pieux à préparer des noms d'ancêtres. C'est époustouflant, stupéfiant que grâce à l'œuvre de l'histoire familiale et du temple, nous puissions aider à racheter les morts. De plus, en participant à l'œuvre de l'histoire familiale et du Temple, nous avons aussi droit aux bénédictions de guérison que les prophètes et les apôtres nous promettent. Ces bénédictions sont elles aussi époustouflantes et stupéfiantes de par leur portée, leur spécificité et leurs conséquences sur la condition mortelle. Ces bénédictions sont parmi d'autres une plus grande compréhension du Sauveur et du sacrifice expiatoire, une plus grande influence du Saint-Esprit pour être renforcé et guidé dans notre vie, une foi plus grande qui ancre profondément notre conversion au Sauveur, une capacité et une motivation accrue d'apprendre et de se repentir grâce à la connaissance de qui nous sommes, d'où nous venons et d'où nous allons. Un cœur sous une influence plus modératrice, raffinante et sanctificatrice. Une plus grande joie grâce à une plus grande capacité de ressentir l'amour du Seigneur. De plus grandes bénédictions familiales, quelle que soit notre situation familiale passée, présente ou future, et aussi imparfait que puisse être notre arbre généalogique. Une reconnaissance et un amour plus profond pour nos ancêtres et nos proches encore en vie, afin que nous ne nous sentions plus seuls. Un plus grand pouvoir de discerner ce qui a besoin d'être guéri et ainsi, avec l'aide du Seigneur, de servir les autres. Une plus grande protection contre la tentation et l'influence croissante de l'adversaire. Et une plus grande capacité de réparer les cœurs troublés, brisés ou anxieux et de guérir les blessés. Si vous priez pour obtenir l'une de ces bénédictions, engagez-vous dans l'œuvre de l'histoire familiale et du Temple. Si vous le faites, vos prières seront exaucées. Lorsque les ordonnances par procuration sont accomplies en faveur des morts, des enfants de Dieu qui vivent sur terre sont guéris. Il n'est pas étonnant que le président Nelson, dans son premier message en tant que président de l'Église, ait déclaré « Le culte au Temple et le service que vous accomplissez pour vos ancêtres vous apporteront davantage de révélations personnelles et de paix et fortifieront votre engagement de rester sur le chemin de l'Alliance. » Un prophète plus ancien a également prédit des bénédictions pour les vivants et les morts. Dans une vision, un messager céleste montra à Ézéchiel un temple d'où jaillissait de l'eau. Il lui fut dit, « Cette eau coulera et descendra dans la plaine et entrera dans la mer morte, et les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. » Cette eau a deux caractéristiques notables. Premièrement, bien que le petit ruisseau n'ait pas d'affluent, plus il s'écoule, plus il grandit et devient une rivière puissante, large et profonde. Il se produit quelque chose de similaire avec les bénédictions qui découlent du temple lorsque les personnes sont scellées en famille. Quand le scellement soude les membres de la famille ensemble, il se produit une croissance significative qui s'étend en amont et en aval à toutes les générations. Deuxièmement, la rivière renouvelle tout ce qu'elle touche. De même, les bénédictions du Temple ont un extraordinaire pouvoir de guérison. Les bénédictions du Temple peuvent guérir les cœurs, les vies et les familles. Je vais illustrer ce point. En 1999, un jeune homme nommé Todd a été victime d'une rupture d'anévrisme cérébral. Todd et sa famille étaient membres de l'Église, mais ils n'avaient été que sporadiquement pratiquants et aucun d'eux n'avait reçu les bénédictions du Temple. Lors de la dernière nuit de la vie de Todd, Betty, sa mère, était assise à ses côtés, lui caressant la main. Elle a dit, « Todd, si c'est vraiment pour toi le moment de partir, je te promets que je veillerai à ce que les ordonnances du Temple soient accomplies en ta faveur. » Le lendemain matin, la mort cérébrale de Todd a été déclarée. Les chirurgiens ont alors transplanté le cœur de Todd sur un patient du nom de Rod. Quelques mois après la transplantation, Rod a appris l'identité de la famille de son donneur et a commencé à correspondre avec elle. Environ 2 ans plus tard, Betty, la mère de Todd, a invité Rod à venir au temple lorsqu'elle s'y rendrait pour la première fois. Rod et Betty se sont rencontrés pour la première fois dans la salle céleste du temple de Saint George en Utah. Peu après, le père de Todd est mort. 2 ans plus tard, Betty a demandé à Rod de représenter son fils décédé et d'accomplir les ordonnances par procuration en sa faveur. Rod l'a fait avec une grande reconnaissance. Et l'apogée de l'œuvre par procuration a été atteinte dans une salle de scellement du temple de Saint-Georges. Agenouillée à l'autel face à son petit-fils représentant son mari, Betty a été scellée à lui. Puis en larmes, elle a demandé à Rod de les rejoindre à l'autel. Rod, dans la poitrine de qui battait le cœur de Todd, s'est agenouillé près d'eux et l'a représenté. Todd, le donneur du cœur de Rod, a été scellé à ses parents pour toute l'éternité. La mère de Todd avait tenu la promesse qu'elle avait faite des années plus tôt à son fils mourant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 15 ans après sa transplantation cardiaque, Rod s'est fiancé et m'a demandé d'accomplir leur scellement dans le temple de Provo, en Utah. Le jour du mariage, dans une salle adjacente à la salle de scellement où les amis proches et la famille attendaient, j'ai rencontré Rod et Kim, sa fiancée. Après avoir brièvement discuté avec Rod et Kim, je leur ai demandé s'ils avaient des questions. Il m'a dit « Oui, la famille de mon donneur est là et j'aimerais que vous la rencontriez. » Prise au dépourvu, j'ai demandé « Vous voulez dire qu'elle est là, maintenant ?» Rod a répondu « Oui ». Je suis sorti, j'ai demandé à cette famille de me rejoindre à l'extérieur de la salle de scellement. Betty, sa fille et son gendre se sont joints à nous. Rod a accueilli Betty en la serrant dans ses bras, l'a remerciée d'être venue et me l'a présentée. Rod a dit « Betty, voici frère Enlon. C'est le médecin qui a pris soin du cœur de votre fils pendant tant d'années. Elle a traversé la pièce et m'a serré dans ses bras. » Et pendant quelques minutes, il y a eu des embrassades et des larmes de joie. Après avoir retrouvé nos esprits, nous nous sommes rendus dans la salle de scellement où Rod et Kim ont été scellés pour le temps et pour toute l'éternité. Rod, Kim, Betty et moi pouvons témoigner que les cieux étaient très proches et que parmi nous se trouvaient des personnes qui avaient déjà traversé le voile de la mortalité. Dieu, dans sa puissance infinie, scelle les personnes et les familles, quelles que puissent être les tragédies, les pertes et les souffrances. Parfois, nous comparons les sentiments que nous éprouvons dans le temple à un aperçu des cieux. Ce jour-là, dans le temple de Provo, la déclaration de C.S. Lewis a trouvé un écho en moi. Si les mortels disent de certaines souffrances temporelles, aucun bonheur futur ne peut les compenser. C'est parce qu'ils ne savent pas que les cieux, une fois que nous y serons parvenus, opéreront rétroactivement et changeront cette agonie en gloire. L'homme béni dira : nous n'avons jamais vécu ailleurs qu'au paradis. Dieu nous fortifiera, nous secourra et nous soutiendra, et fera de notre détresse la plus profonde un élément sanctificateur. Quand nous rassemblons les noms de nos ancêtres et allons au temple en leur faveur, Dieu accomplit simultanément des deux côtés du voile un bon nombre des bénédictions qu'il a promises. Nous sommes également bénis lorsque nous aidons les membres de notre paroisse ou de notre pieu à faire de même. Les membres qui habitent loin des temples reçoivent également ces bénédictions en participant à l'œuvre de l'histoire familiale, en collectant les noms de leurs ancêtres pour que leurs ordonnances du temple soient accomplies. Le président Nelson a cependant lancé cette mise en garde. Nous pouvons puiser de l'inspiration à longueur de journée dans les expériences que d'autres personnes ont vécues avec l'œuvre de l'histoire familiale et du temple. Mais nous devons faire quelque chose pour connaître cette joie nous-mêmes. Je vous invite à réfléchir en vous aidant de la prière au genre de sacrifice et de préférence un sacrifice de temps que vous pouvez faire pour participer plus activement à l'œuvre de l'histoire familiale et du temple. Si vous acceptez l'invitation du président Nelson, vous découvrirez, rassemblerez vos ancêtres et vous lirez à eux. De plus, les bénédictions se déverseront sur vous et votre famille comme la rivière de la vision d'Ézéchiel, vous trouverez la guérison nécessaire. Orson et Parley Pratt furent parmi les premiers à connaître les effets guérisseurs du scellement, de l'œuvre de l'histoire familiale et du temple dans cette dispensation. Betty, sa famille et Rod les ont vécus. Vous le pouvez aussi. Par son sacrifice expiatoire, Jésus-Christ offre ses bénédictions à tous, aux vivants et aux morts. Grâce à ces bénédictions, nous verrons, métaphoriquement parlant, que nous n'avons jamais vécu ailleurs qu'au paradis. J'en témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, nous sommes si reconnaissants des sentiments que nous avons éprouvés lors de cette session de la conférence, reconnaissants pour ce chœur magnifique qui nous rappelle ce que nous devrions être. Nous nous réjouissons à l'occasion de soutenir un prophète de Dieu, le président Russell Nelson. Nous sommes reconnaissants pour lui, pour l'esprit merveilleux qu'il a. Donne-nous de l'humilité, la douceur de pouvoir suivre les recommandations et les enseignements qu'il nous prodiguera et de nous rapprocher de ton Fils. Nous sommes reconnaissants pour la première présidence et le collège des 12 apôtres que nous aimons et soutenons. Nous sommes reconnaissants pour ceux qui ont été appelés aujourd'hui. Fortifie-les, aide-les, Père. Alors que nous sommes réunis de par le monde, nous sommes reconnaissants pour les sentiments que nous avons ressentis et les réponses que nous avons reçues aujourd'hui. Aide-nous à les suivre, Père. Nous sommes reconnaissants en ce jour pour ton Fils, notre Jésus-Christ. Aide-nous à nous souvenir de lui et de son sacrifice infini en notre faveur, pour la promesse de l'immortalité, pour les ordonnances et les alliances, afin de recevoir la vie éternelle par lui. Nous te demandons maintenant, alors que nous quittons ces lieux, pour revenir plus tard écouter les paroles d'apôtres et prophètes lors de cette conférence. Nous te demandons cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen.
Vous venez d'assister à une session de la 188e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session a été interprétée par un chœur combiné d'étudiants des instituts de religion de l'interrégion de Salt Lake City en Utah. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.